Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Radio Alpa 107.3 Le Mans. Bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage Didier. Bonjour Didier.
Bonjour tout le monde.
Alors dans ce 22e épisode, d'Asialogie, oui. Et toujours en ce début d'année, nous allons vous parler de naissance, chers auditrices et auditeurs.
D'accord. Oui.
Et de naissance au pluriel en plus. Hein.
Ah oui.
Et on va voir comment s'organise la vie des jeunes parents en Asie après l'accouchement. Est-ce que c'est différent de chez nous? On va tout vous dire là-dessus.
D'accord.
Et puis en deuxième partie, Didier, tu vas nous raconter aussi une histoire de naissance. C'est la naissance de la formation d'un groupe. Oui, de sextuplé.
C'est ça.
Un groupe d'idoles destiné au succès. Tu vas nous parler de l'expérience Katseya.
C'est ça. Revenons avant ces sextuplés.
Oui.
En fait, aux naissances et l'Asie. Donc en fait, dis-moi, quelle différence il y a dans la période qui suit la naissance en Asie par rapport à la France? Est-ce que c'est fondamentalement différent de nous?
Ben, on va voir ça.
Ouais.
Alors, dans notre culture française, lorsqu'une femme accouche,
oui.
L'attention est très peu portée sur elle. C'est le bébé le plus important.
C'est ça. C'est le nouveau
voilà,
roi.
Voilà, on offre plein de cadeaux au bébé d'abord. Hein. Alors, on prend des nouvelles du bébé, mais beaucoup moins de la maman, qui se sent souvent obligée d'avoir le visage radieux de bonheur qu'elle est épuisée.
C'est vrai, quoi.
Et qu'elle elle est peut-être profondément déprimée. Bref, c'est quand même un grand bouleversement. On va
Forcément un peu, oui.
Et elle vit avec le papa, d'ailleurs, une transition fondamentale dans sa vie. Voilà, alors ce changement brutal de statut et de rôle occasionne souvent chez les jeunes mamans françaises, je vais me centrer sur les mamans françaises, une vraie dépression qu'on appelle le baby blues et qu'il ne faut pas négliger dans l'intérêt du couple et du lien avec leur enfant.
Ouais.
Ça, c'est très important. Alors, dans les cultures asiatiques, c'est très différent. L'attention est d'abord portée à la mère.
Très bien.
Et on ferait bien de s'en inspirer.
Je pense,
c'est mon opinion personnelle, mais je suis sûre que beaucoup de femmes le partagent aussi. Et en Asie, on a davantage conscience de la réalité des enjeux de ce qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire la période qui suit l'accouchement. Alors l'accouchement, la naissance du bébé sont vus là-bas comme des bouleversements véritables et dans cette période de transition, la mère est mise au centre des préoccupations. Elle doit être entourée, aidée et aimée pour mieux rencontrer son bébé.
Bon, voilà une belle idée. Et alors du coup Corinne, ça se traduit concrètement comment cette mise au centre de la maman?
Avant de rentrer dans le détail de ce qui se passe à ce sujet dans les pays d'Extrême-Orient, je tiens à rappeler qu'en Extrême-Orient, Corée, Chine, Japon, on vit le baby crash.
D'accord.
Moins d'un enfant par femme en Corée.
Oui, c'est pas...
C'est pas beaucoup.
Non, c'est peu.
1,15 en Chine et 1,34 par femme au Japon.
Oui, ça fait peu de centièmes, ça, en plus.
Voilà. Chez nous, ça diminue, c'est une petite parenthèse.
C'est vrai aussi.
Alors, cela a amené les gouvernements de ces trois pays à mettre en place des moyens pour aider à la parentalité.
Ouais.
En résumé, la générosité est quand même plutôt de mise. Hein. En Chine, c'est 98 jours minimum de congé de maternité.
D'accord.
Donc, ça fait un peu 3 mois, on va dire.
C'est ça,
avec des jours en plus, et ça, c'est important, si la maman a plus de 24 ans.
Ah oui, 24 ans.
C'est jeune quand même, 24 ans.
Mais,
on a plus de 24 ans, si on a un bébé, on a plus de jours.
Okay.
Et s'il y a eu un accouchement difficile, il y a plus de jours aussi. Donc plutôt généreux.
Oui, j'imagine.
Alors pour le Japon, c'est 6 semaines avant et 8 après. Donc ça se rapproche de ce qu'on a en France. Et en Corée, c'est 3 mois, dont au moins 45 jours après la naissance, mais avec une rémunération qui dépend de l'employeur, contrairement à la Chine et au Japon, où c'est, je dirais, une suite, on va dire comme en France,
c'est ça,
du même salaire.
C'est ça, c'est un forfait d'État.
Voilà. En Corée, c'est quand même un petit peu moins facile.
Ouais.
Et du coup, pour la Corée, aussi, ça dépend, les rémunérations dépendent aussi des employeurs. Alors,
D'accord.
les trois pays, il y a des congés aussi plus ou moins longs qui sont accordés aux pères.
Ah.
Et il y a aussi des congés parentaux avec rémunération qui sont proposés.
D'accord.
Voilà. C'est plutôt bien quand même, Chine, Corée, Japon.
Bon, alors prenons dans l'ordre. Comment ça se passe en Chine d'abord?
Alors, au retour de la maternité en Chine, on pratique le Zhuo Yuezi.
D'accord.
Alors, c'est le mois d'or. Je pense qu'on en parle un peu en France. Hein. De plus en plus, le mois d'or, c'est une tradition millénaire qui consiste à mettre au repos la jeune maman pendant un mois entier pour rétablir son chi, le fameux souffle vital et l'énergie.
Elle a de quoi reprendre son souffle, du coup.
Voilà, bah, retrouver son énergie.
C'est ça.
Et quel que soit, et il faut un mois pour ça.
Mm-hmm. Oui.
Et il faut un mois aussi en France, normalement.
Bah, oui. Hein.
Alors, quel que soit son rang social, leur rang social, la majorité des Chinoises suivent cette tradition, Didier.
D'accord.
Car prendre soin de la nouvelle maman, c'est vu comme un investissement pour l'avenir.
Okay.
C'est ça la vision qui est différente. Mm-hmm. Alors, c'est un concept qui est quand même bien éloigné de notre vécu français. Bah, essayons d'imaginer, hein, chères auditrices, qu'après votre accouchement, vous devenez le centre d'attention de tout le monde. Que des personnes bienveillantes s'occupent de vous et de votre bébé, qu'on vous cuisine des petits plats adaptés, qu'on s'occupe des tâches ménagères et qu'on vous épargne stress et préoccupations. Moi, je dis ça, ça fait rêver.
Ça dure un mois.
Voilà.
Okay.
Et pour que les femmes récupèrent au mieux après l'accouchement, les Chinois ont donc établi, il y a environ 2000 ans, une liste de recommandations basée sur la médecine traditionnelle chinoise pour prévenir les problèmes de santé de la maman, favoriser l'allaitement et le lien au bébé.
D'accord, bah alors dis-moi, c'est quoi ces recommandations-là ?
Alors, éviter les efforts physiques, Didier, le stress et les tensions émotionnelles,
ça me paraît pas mal.
L'exposition au froid, au courant d'air et à l'humidité.
Ça, j'y aurais moins pensé, mais oui.
Voilà, ça date un peu, hein, c'est vrai, quand même, 2000 ans. Il n'y a pas, alors, pas de climatiseur, pas de ventilateur ou de fenêtre ouverte. Il faut éviter les aliments crus et froids, de même que les boissons froides, l'eau froide en général d'ailleurs, et cela même en été.
Ah, ok.
Oui.
Bon.
Mais oui, c'est vrai, parce que pour récupérer le chi, il faut du chaud, il faut du yang.
Okay.
Il faut du yang, c'est l'énergie.
D'accord.
Alors après l'accouchement, c'est la mère ou la belle-mère qui va se charger de faire la cuisine avec des aliments chauds, cuits et non transformés, riches en fer, riches en vitamines et en protéines. Alors au menu, il y aura beaucoup de soupes et de bouillons à base d'œufs et de poulet.
Ok.
Voilà, alors d'autres recommandations. Et c'est toujours vrai, hein. C'est toujours vrai, tout
d'accord.
ça. Alors il y a d'autres recommandations beaucoup moins suivies aujourd'hui. Alors c'est porter un chapeau pour garder la tête chaude, ne pas se laver les cheveux, se nettoyer avec une serviette imbibée d'un mélange d'eau, d'alcool chaud et de sel de gingembre. Pas de douche, on se tamponne légèrement.
Ah,
on connaît ça dans les séries, on voit un peu comment ça se passe. Alors à la fin du mois d'or, la nouvelle maman aura un bain rituel avec des herbes médicinales pour symboliser le début de sa nouvelle vie de mère dans le monde extérieur.
Okay.
On passe dans l'eau pour changer de monde.
Ok.
Très symbolique tout ça. Alors aujourd'hui, dans la vie urbaine contemporaine, c'est compliqué de réunir sa famille pour pratiquer le mois d'or. Ouais. Alors il existe des centres qui sont ouverts maintenant en Chine et en Corée. Ils offrent des chambres privées avec des repas adaptés, des soins pour le bébé, des massages, de la rééducation périnéale, de la rééducation tout court, des consultations avec des spécialistes, des formations à la parentalité. Et ça coûte entre 1 000 et 10 000 euros par séjour.
Ah, tout de même.
Ça dépend du niveau.
Ah oui.
Il y a des centres, une étoile. Si, c'est ouvert à tout le monde.
Enfin, à 1 000.
Oui, mais 1 000 euros pour un mois, quand on y pense.
Ah, pour un mois, excuse-moi, je n'avais pas fait le lien.
C'est pour le séjour d'un mois, c'est pour le mois d'or. Et les femmes économisent, enfin, la famille économise pour payer le mois d'or à la future maman.
D'accord.
Moi, je trouve ça quand même très beau.
Ok.
Voilà. Et pour les mamans qui ne peuvent pas aller dans des centres, si elles habitent à la campagne ou si elles ne peuvent pas aller dans ces centres, il y a un suivi à domicile quotidien avec des sages-femmes ou des infirmières à domicile pendant la durée du mois d'or.
Ah d'accord, ça c'est institutionnel. Hein.
C'est institutionnel.
Okay.
Donc moi je vous propose d'écouter Hey Mama. C'est une des chansons d'une super série sur Netflix qui s'appelle Birth Care et qui raconte la vie des femmes dans un centre après la naissance.
Très bien. Alors,
on écoute Hey Mama. Just like that. Here we go, no.
feeling just like that. Here we go, no look at me, no stay up all night. Here we are, no look at us, no do what you're doing and look at you. Here we go, no look at me, no never go down. Here we are, no look at us, no doing it all.
Alors, Corinne.
Oui.
Après la Chine, je crois que maintenant on va essayer de s'intéresser aux jeunes mamans coréennes, s'il te plaît.
Oui. Alors, beaucoup de points communs avec la Chine, hein, Corée, ouais. En Corée. La tradition du mois d'or existe et ça s'appelle San Ujori.
D'accord.
Voilà. Alors, les mêmes règles sont appliquées. C'est, mais les nouvelles mères consomment encore plus de soupe nutritive et surtout la fameuse soupe aux algues qui s'appelle Myeokguk.
D'accord.
Réputée pour favoriser la lactation et la récupération.
Ah, c'est
plein de
parfait.
Sels minéraux dans cette soupe aux algues. Alors, les centres de soins post-accouchement, donc ça s'appelle Centre Ujoriwan, sont très en vogue en Corée, mais sont très coûteux par contre. Là, c'est 1000 euros pour 2 semaines.
Hein. Okay.
En Chine, c'était 1000 euros pour tout le séjour, hein, on se rappelle.
Mmh.
Et donc, 1000 euros minimum pour 2 semaines pour la maman et le bébé.
Ouais.
Et bien évidemment, ça peut monter beaucoup plus.
J'imagine, hein. C'est le prix de base.
Alors que ce soit en Chine ou en Corée, je ne l'ai pas dit ça, bien évidemment on s'occupe du bébé à fond, hein,
ouais.
De la maman et du bébé très très bien. Mais on s'occupe aussi du papa qui peut aussi profiter du centre et de ses services. Et le papa peut même dormir dans la chambre
bien.
Avec la maman et le bébé si tout le monde le souhaite.
D'accord.
Voilà.
Bon alors dans ce trio là, il nous reste encore un pays.
Oui.
Le Japon, Corinne, comment ça se passe?
Alors... La durée de séjour, alors j'ai oublié aussi de dire ça, décidément j'oublie
ouais.
beaucoup de choses dans cette émission. La durée de séjour en maternité, en Chine et en Corée, pour un accouchement normal,
ouais.
elle est variable entre 2 à 5 jours selon l'état de la maman
D'accord.
et du bébé, bien évidemment.
Okay, bien sûr.
Alors au Japon, les séjours à l'hôpital après l'accouchement sont plus longs, c'est 5 à 7 jours.
Mm-hmm.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus long. Et ça, c'est pour un accouchement normal.
Mmh.
Alors, il n'y a pas de mois d'or véritable au Japon. Il y a des centres sûrement, mais je n'ai rien trouvé vraiment d'intéressant là-dessus.
Okay.
Mais les Japonaises préfèrent suivre la tradition japonaise,
oui.
qui est de revenir vivre chez ses parents.
D'accord.
Enfin, c'est chez leurs parents.
Oui, bien sûr.
Voilà. Pendant quelques semaines après la naissance du bébé.
Mmh.
Donc, c'est retour chez la maman. C'est la
voilà.
maman qui
va
donc...
On va se faire coucouner chez papa, maman.
Et exactement.
Okay.
Alors, il faut savoir que les protocoles des soins postnataux à domicile sont aussi très rigoureux et très efficaces. Et ça s'appelle le Satogeri Bunben en japonais. La jeune maman sera ainsi entourée de sa famille pour recevoir du soutien, en plus du bénéfice d'une bonne surveillance médicale pour elle et son bébé.
Okay.
Mais le repos est moins strict et cette pratique japonaise, ou le retour au foyer natal, hein, c'est comme
oui,
ça que ça
voilà.
s'appelle, est particulièrement forte dans les régions rurales.
Ouais.
Voilà, et ça a quand même quelque chose de particulier, ça reflète une approche plus collective des soins qui suivent l'accouchement.
D'accord.
Et puis bah, pour les femmes qui vivent en milieu urbain, qui ne peuvent pas retourner chez les parents, il existe ce qui commence à exister en France maintenant,
ouais.
c'est les doulas services.
Okay.
Une doula, c'est une femme qui va accompagner la maman après.
D'accord.
Et ça gagne beaucoup en popularité au Japon. Et j'ai cherché au Mans.
Ah oui.
Si on cherche dans les pages jaunes ou sur D'accord. Internet, il y a des doulas.
J'avoue
on
que...
peut se faire accompagner par une
doula.
Je suis
plus trop au fait de tout ça. Donc...
Mais oui,
okay.
mais c'est quand même des services qui sont nouveaux. Et moi, je recommande aux futures mamans de prendre contact avec une doula pour qu'elle soit accompagnée après.
D'accord. Alors, voilà. j'espère, moi, avoir été un papa investi et aidant. Et du coup, alors, le rôle du père alors, dans tout ça, parce qu'on n'en a pas
alors,
beaucoup parlé, quand même.
Non, c'est vrai, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je n'ai pas encore eu le temps d'y dire.
C'est ça, mais c'est pour ça que je trouve cette porte.
Oui, merci. Alors, en Asie, bah, les papas sont là pour assurer le soutien logistique et financier. On sait quand même que les hommes sont là pour gagner les sous. En Asie, c'est beaucoup, très important.
C'est clair, hein, plus que ça
surtout au Japon.
Mmh.
Alors, en Corée aussi, mais les femmes, en ce moment, elles s'émancipent un peu quand même en Corée. Alors, les papas doivent veiller à ce que la mère et le bébé aient tout ce dont ils ont besoin.
Ça.
Alors, traditionnellement, bah, les hommes avaient peu d'implication directe hein, dans les soins au bébé ou les tâches domestiques.
Je suis pas tellement
hein,
surpris.
Voilà, bah, comme chez nous, je dirais quelque part, c'est pas si vieux. Hein.
Mmh.
Et les responsabilités étaient toujours confiées à la mère, aux grands-parents, ou à une nourrice. Voilà. Mais aujourd'hui, particulièrement en ville, il y a une participation accrue des jeunes pères qui assistent maintenant à l'accouchement et apprennent à changer les couches, etc.
Ça me paraît le minimum de base, mais bon, ok, d'accord.
Alors, peu de pères bénéficient du congé de paternité à cause des normes culturelles. Donc, ça existe, mais ils n'en profitent pas.
C'est ça.
Et puis, aussi, je dis à cause de l'image confucianiste du père.
Ben voilà.
Et de celle de la mère d'ailleurs.
Mmh.
Alors par exemple en Corée, il y a un congé rémunéré de 10 jours pour le père, mais il y a seulement 25 à 30% des pères qui vont l'utiliser. C'est quand même très peu.
Ouais, déjà 10 jours,
et
c'est
pas
beaucoup.
Et au Japon, c'est pareil. Mais oui, c'est ça. Alors, malgré de bonnes conditions pour prendre un congé parental, il y a seuls 7% des pères au Japon qui en profitent. C'est la pression sociale qui frein majeur.
Ouais.
Alors, depuis quelques années, il faut noter que les pères japonais s'efforcent de construire un lien plus fort avec leurs enfants. Et c'est un grand, grand, grand changement, ça.
D'accord. Bon, alors, et les gouvernements, est-ce qu'ils s'impliquent un peu? Ils font des efforts pour aider à changer tout ça, que les jeunes pères exercent un peu plus leur rôle?
Oui. Surtout en Corée et au Japon, parce qu'en Chine, c'était quand même un petit peu plus équilibré.
Ouais.
Et souvenons-nous qu'il y avait la politique de l'enfant unique,
c'est
ce qui
ça.
Faisait que les pères étaient très engagés auprès de leurs enfants.
Mmh.
Ce qui fait que c'est pas du tout la même histoire.
Mmh, bien sûr.
Alors, donc en Corée et au Japon, il y a une répartition aujourd'hui plus équitable des responsabilités parentales. Et la notion de congé, comme je vous le disais, se développe pour les papas dans les deux pays. Mais les entreprises, bien évidemment, donc la loi, je dirais, elle est meilleure que ce qui se passe dans la réalité.
C'est souvent
les entreprises ne sont pas toujours favorables, bien évidemment, pour accorder ce congé. Et il y aura une pression qui sera faite sur les papas pour ne pas le prendre, en fait. Non, voilà.
Okay.
C'est les normes... culturels et les stéréotypes qui empêchent les papas de s'impliquer, en fait. Alors, faut pas oublier qu'en Asie, les normes traditionnelles, toujours, de genre, considèrent que s'occuper du nouveau-né, c'est le rôle exclusif de la mère. C'est quand même reste. Voilà.
C'est clair, quoi. Mince, alors.
Voilà. Et pour résumer, je dirais que les gouvernements ont des politiques généreuses, mais les mœurs sont plus en retard que les lois.
Il va falloir encore
comme
du
toujours,
temps, je pense.
Hein. Il faudra du temps. Déjà, ils en font encore chez nous, mais là-bas, ils ont un peu plus de chemin à parcourir pour certaines choses.
Okay.
Alors, il faut changer les mentalités et les défis à relever, mais en tout cas, le mois d'or, ça par contre, j'espère qu'un jour, ça viendra, ça s'installera... en France.
Qui sait,
voilà.
On en parlera alors.
Alors moi je vous recommande l'excellente série coréenne, avec sa très bonne critique vraiment partout, qui s'appelle donc Birth Care. C'est un drama de 2020 qui aborde avec humour les angoisses post-natales, les stéréotypes sur la maternité. C'est drôle, chaleureux et féministe.
Okay.
Voilà. Bon, en attendant, comme toi aussi, tu vas nous parler de la naissance de sextuplé, Didier. On écoute un petit bout d'une chanson de Cat's Eye.
C'est ça.
Ok, c'est la chanson Début, donc le début du début.
Voilà. Histoire de se mettre dans le sujet.
On se met dans le sujet. Somebody's about to turn it to 100.
Voilà.
Bon, bah Didier, merci, c'était sympa début de Katsai. Je ne sais jamais si on dit Katsai, Katsai.
Bah, moi, je dis Katsai, mais bon.
Katsai. C'est ça. Hein? Oui. Mais mon accent anglais, pas toujours.
Alors là, en termes d'accent, les auditeurs savent.
Bon, je vais te laisser dire le nom du groupe. Alors, bon, bah, c'était super. Merci, Didier. Donc, on va parler un petit peu. Enfin, on va parler à nouveau de la vague Hallyu, c'est ça ?
C'est ça.
Qui ne cesse de grandir et qui redistribue les cartes du divertissement mondial.
Exactement.
Avec ce phénomène. Alors, raconte-nous l'histoire de ce groupe, Didier.
D'abord, un petit rappel, si tu veux bien, Corinne.
Oui.
D'accord ?
Je veux bien
La Corée du Sud, bon, c'est un petit pays par sa superficie, 5 fois moins importante que la France, mais très peuplée, 51 millions d'habitants, 5 fois moins grand que la France, et pourtant, il n'y a pas beaucoup moins d'habitants. Alors, son histoire, bon, elle est un petit peu agitée.
Oui, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire en ce moment, parlant. Les crises qui se succèdent ont fait de la Corée un pays résilient qui a choisi la diffusion de sa culture comme remède. Donc c'est aussi qu'est née aussi, entre autres, la vague Hallyu, justement, dont on va parler, et qui essaime les frontières, c'est en train de conquérir le monde chaque jour un petit peu plus, particulièrement, bien sûr, avec la K-pop.
Alors, qu'est-ce qui caractérise la K-pop, Didier, rappelle-nous. Si. Oui, c'est un petit rappel,
rappel. Je remets à niveau, là.
Oui, tu remets à niveau.
C'est un phénomène mondial, de fusion musicale. Alors, c'est dominé par des groupes qu'on connaît quand même bien maintenant, avec BTS, Blackpink, Stray Kids, Seventies, notamment tous ces groupes-là qu'on connaît, qu'on entend un petit peu, même si on s'y intéresse de loin.
Qui sont là en juillet, les Stray Kids, on rappelle.
Ça, on l'a rappelé la semaine dernière. Mais il n'y a plus de place, de toute façon, mais bon... C'est pas grave.
Mais bon, c'est jamais.
Et ces groupes, donc, ils sont non seulement pour leurs chansons, c'est clair, mais aussi pour leur chorégraphie, leurs clips, leurs prestations d'acteurs. Enfin, ils sont quand même très, très complets. Et puis, leur interaction aussi avec les fans, on en a déjà parlé,
oui.
Avec les réseaux sociaux,
oui, ça marche très fort.
Les armées qu'il y a derrière. Enfin, voilà, c'est puissant. À noter que Stray Kids, comme on l'a dit, le 26 et 27 juillet, je pense que là, si on n'a pas les places gratuites...
Oui, c'est bien que tu redises la
date. À force, quand même...
Ce serait bien s'ils nous écoutent.
S'ils nous entendent, moi, je veux bien aller découvrir, écoutez. Bon, quoi qu'on en dise,
oui,
c'est
jeune. Oui, c'était Bertie qui nous en avait parlé la semaine dernière.
Et puis, le 26 juillet, c'est une belle date pour moi. Enfin, bon, peu importe. Quoi qu'on en dise, ces jeunes artistes polyvalents sont bourrés de talent. Et 95% ont été recrutés par des agences majeures, comme la ALEB. La SM Entertainment, il y a la IG Entertainment, ils sont nombreux qui pourraient jouer en fait un rôle clé de formation en fait. C'est des éléments qui vont recruter, perfectionner et puis faire la promotion de tous ces artistes quoi.
Alors quelle est la stratégie des agences coréennes pour former les idols ?
Alors, elles sont perfectionnées. En fait, ils ont perfectionné un modèle original qui favorise l'émergence de stars mondiales. Ça marche en plus.
Oui.
Ça marche par le recrutement, la formation avec des trainees, les apprentis qui vont passer plusieurs années à se perfectionner en chant, en danse, en rap, en langue étrangère. Oui, c'est ça. On va en reparler avec les quatre sizes. Mais le concept de début, c'est le lancement officiel. C'est au cœur du dispositif. C'est les groupes qui vont se faire connaître avec un premier titre accrocheur, avec un concept visuel bien défini, des chansons, des albums qui sont souvent multilingues pour capter un public mondial. Et en même temps, il y a la création d'une communauté de fans passionnés qui vont jouer le
fandom.
Rôle très actif pour le succès de ces artistes à travers les réseaux sociaux. On en avait déjà parlé avec BTS.
Donc c'est ce qui est raconté en détail dans la série il y a une série donc sur ce fameux groupe qui vient de se former.
On y vient voilà.
Les quatre comment tu dis
Katsai.
Les Katsai.
Voilà.
Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec ce mot-là.
En fait, oui, c'est ça, comme tu dis, il y a une série qui raconte l'histoire. Alors, c'est un groupe de filles, les Katsai, multinationales. Ça a été formé par le fameux label AB, c'est ça ? Et ce label américain, alors Griffin, moi ça je connaissais pas, Records, pour leur, l'objectif c'était de fusionner en fait les styles de production entre la K-pop et la pop occidentale pour toucher un public encore plus large, bien sûr gagner un petit peu d'argent.
Oui, un maximum,
c'est un peu l'idée quoi. On peut dire que la création de ce groupe représente une nouvelle étape en fait dans l'évolution de l'industrie de la K-pop quoi. Parce que là on passe quand même à un stade encore autre, un peu plus ultime. L'origine de ce groupe remonte à une émission de télé-réalité en fait diffusée en 2023 sur Netflix. Il y a plus de 120 000 candidats à travers le monde.
120 000
Oui,
c'est
énorme.
Qui
vont y participer après plusieurs semaines des compétitions, vous imaginez un peu le principe. Intensive, il y a 6 finalistes. C'est pour ça que je disais que ça donne naissance à des sextuplés.
Oui, les sextuplés.
Ils ont été sélectionnés vous imaginez bien, par des professionnels et du public pour composer le groupe. Alors, il y a Sophia des Philippines, il y a Lara, il y a Daniela, il y a Megan qui viennent, eux, des États-Unis, et il y a Manon, la leader du groupe, qui est de Suisse. L'Europe est représentée quand même. Et oui. Il y a Yunche qui, elle, vient de Corée du Sud. Donc, leur formation, ça a duré un an à Los Angeles.
Alors, comment ont-elles fait leur début, les Sextuplés ? On va les rebaptiser. Alors, les 4
c'est ça. Le groupe a officiellement débuté en 2024 avec un mini-album, Soft is Strong, pour mettre en avant leur polyvalence et leurs caractéristiques de la formation de la K-pop à la coréenne. Puis, cela, ça positionne en fait les 4 sides comme un pont culturel entre l'Orient et l'Occident. Chaque membre est issu de cultures différentes, vous l'avez bien vu, elles viennent un petit peu
d'horizons divers. Oui.
Voilà, leur lancement a été bien sûr accompagné par les médias, les réseaux, c'est une grosse machine. Hein. Ils ont eu un succès immédiat vu leurs influences artistiques, comme ça va peut-être parler à des plus anciens, les Spice Girls, les Pussycat Dolls ou les Séraphines.
Film.
Oui. Alors, message d'inclusivité, en fait, puis d'universalité, ça séduit beaucoup de jeunes.
Alors, elles ont. C'est quoi leur projet aujourd'hui, Didier ?
Alors, pour former ce groupe, en fait, il y a eu une stratégie unique avec la création du documentaire qui relève, ça a relevé toutes les difficultés, le défi rencontré par les membres de leur formation, puis aussi leur histoire personnelle, parce qu'ils sont investis quand même, ces 6 jeunes-là. Cat Size s'est bâti sur l'émotion des participantes, celle du public.
Oui, mais elles ont fait un album ou pas ? Parce que tu sais qu'Asiologie, c'est presque fini.
Ah. C'est ça, voilà. Oui. Je vois bien que tu me presses.
Je te presse, oui. Okay. Oui, oui. Est-ce qu'elles ont sorti un album ou est-ce qu'elles vont en sortir
un ? Pour l'instant, c'est de parler de défi parce que le groupe, il va devoir naviguer dans un marché de K-pop. Alors, c'est saturé.
Ah. Ouais.
Et on va pouvoir espérer que cette diversité culturelle, ça va leur apporter un large public. Et puis, les projets musicaux, il va falloir attendre un petit peu.
Donc, elles n'ont pas sorti d'album on attend.
Je voulais mettre
bon,
ça
chers
en
amis, Asiologie, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà. Vous pouvez nous retrouver samedi matin à 9h30.
Exactement.
En podcast et sur notre page Facebook. Salut,
très bien.
À très vite.